Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans Estivalitude, l'émission qui vous métisse et vous clone, mais de manière estivale. Estivalitude, la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci...
C'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde y sera.
Formidable.
Guillaume Musso, vous êtes un de nos romanciers les plus populaires, ce qui en France est parfois un péché. Dans votre dernier livre, La vie secrète des écrivains, vous posez une question délicate. Les écrivains qui se cachent ont-ils quelque chose à cacher? Guillaume Musso, bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Marie-Agnès Gillot, vous êtes danseuse ex-étoile, on expliquera pourquoi tout à l'heure. Votre carrière est éblouissante et vous vous produisez le 6 juillet à Giverny dans le cadre d'Impression, le Festival des Arts de Vernon, Giverny. Marie-Agnès Gillot, bonjour.
Bonjour Christophe.
L'aurez-vous colligé? Alors ça c'était le mot savant que j'avais voulu glisser, donc l'aurez-vous compris? Ce matin, Guillaume Musso mène la danse des mots et Marie-Agnès Gillot danse avec les mots. Magnéto Juliette.
France Inter. Estivalitude.
Qu'est-ce que ça veut dire ça encore?
Christophe Bourseiller.
Guillaume Musso, vous connaissiez Marie-Agnès Gillot?
Oui, bien sûr. Sans savoir que j'allais la rencontrer ce matin, j'avais lu des interviews, bien sûr.
Vous avez vu des interviews, vous connaissez son travail de danseuse?
De loin, hein, parce que c'est pas...
Vous n'êtes pas tellement adepte de la danse, vous?
Je ne demande qu'à le devenir, mais c'est vrai que jusqu'à présent, en fait, j'en avais plutôt une image, liée quand même à la souffrance, liée quand même
on va en parler.
Un mélange de beauté, comme ça, vraiment de points d'équilibre entre la beauté, la souffrance.
Vous êtes tous les deux sportifs, on va en parler tout à l'heure. Marie-Agnès Gillot, vous lisez quoi comme livre?
De tout.
De tout?
Ah ouais, vraiment de tout. C'est ce qui me tombe dans les mains.
Oui,
quoi.
Par exemple des romans, des essais,
vous lisez
de la philosophie?
Oui, aussi.
Ah bon?
Désolée.
Eh ben c'est formidable. Vous avez déjà lu les livres de Guillaume Musso?
J'en ai lu un, mais je me souviens plus trop. Mais en tout cas, j'ai pas lu le dernier, parce que là, on va parler du dernier, je pense.
Merci.
Oui, on va parler du dernier, mais vous vous souvenez plus, mais ça vous plaît? Vous aimez?
Oui, j'aime bien, ouais.
Guillaume Musso, il est diabolique votre livre, La vie secrète des écrivains. Il s'inspire de tous ces écrivains qui se cachent. Vous savez, il y en a quelques-uns comme ça dans des retraites inaccessibles qui ne donnent jamais aucun interview. Alors on se dit, mais pourquoi on essaie, les journalistes se battent pour se glisser dans leur boîte aux lettres? Alors on se souvient de Salinger, il y a Kundera, il y a aussi Philippe Roth aussi.
Qui a arrêté d'écrire. Kundera qui donne plus d'interviews depuis 1986. Elena Ferrante, on ne sait même plus, effectivement. Voilà. Enfin, dont on ne sait pas si c'est même un homme, une femme, quel âge.
On ne sait même plus qui c'est. Alors à propos d'Elena Ferrante, je vous propose d'écouter un extrait du journal de 20h sur France 2, Guillaume Musso, en 2016.
Elena Ferrante, c'est la nouvelle star de la littérature italienne. En racontant 50 ans d'histoire à travers l'amitié de deux Napolitaines, elle a connu le succès. Plus de 2,5 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Détail important, Ferrante se cache, on ne sait pas qui c'est.
La scrittrice Elena Ferrante, che comunque...
En octobre dernier, coup de tonnerre à la télé italienne. Elena Ferrante est démasquée. Ce serait en fait Anita Raya, une traductrice italienne.
Alors, aux dernières nouvelles, ça a encore changé, puisque Elena Ferrante serait en fin de compte un homme, Domenico Starnone. Mais évidemment, le dossier romanesque reste ouvert. C'est Ferrante qui a déclenché votre désir de ce livre?
Entre autres, enfin, c'est tous ces auteurs qui, à un moment ou à un autre, finalement, se sont émancipés des règles de la promotion classique, du rituel littéraire qui peut finalement un peu vous enfermer et donc qui ont gagné à la fois des degrés de liberté, mais qui aussi, alors c'est le paradoxe, c'est l'effet boomerang, ce qui fait qu'aujourd'hui on parle davantage d'eux pour le fait qu'ils se sont cachés, éloignés, que finalement de leur œuvre. Donc c'est toujours un petit peu compliqué.
Mais plus on se dérobe, plus on est désiré. Et il y a aussi une part de stratégie littéraire ou presque commerciale chez ces écrivains.
Je pense que ça, c'est davantage une conséquence, mais que à la base, c'était pas ça qui les motivait dans le fait de vouloir se mettre un petit peu comme ça, de faire un pas de côté.
Ça vous impressionne, Marie-Agnès Gillot, qu'on puisse comme ça, par exemple, dire « Je n'irai pas sur France Inter, je ne me montrerai plus, on me cherchera pendant des années, je me produirai sur scène une fois tous les 4 ans, et le reste du temps, je serai inaccessible ?»
Oui, il joue au fantôme de l'opéra, c'est ça?
C'est ça. Le fantôme de l'opéra, ça vous intéresse? Vous aimeriez devenir ce fantôme?
Ah oui, bien sûr.
Alors, nous voici sur une île de rêve, Beaumont. Donc, alors, une île imaginaire, bien sûr. Un de ces paradis pour riches, vous savez, où les gens se cachent, on sait pas. On en entend vaguement parler sur TF1 de temps en temps, mais c'est assez rare. Et vous dites que ça ressemble à une ville californienne. Alors là, j'ai découvert ça dans votre livre, qui s'appelle Atherton. Qu'est-ce que c'est, Atherton?
Oui. Atherton, c'est un petit peu un ghetto de riches en Californie. Mais là, l'idée, c'était, je suis parti du mot anglais, en fait, island. Island, ouais. Si vous le décomposez, vous avez I et vous avez land, le territoire du jeu, du moi.
Ah ouais,
le territoire du moi.
D'accord.
Et donc, l'idée, c'était de considérer l'île un petit peu comme la métaphore de la psyché intérieure, finalement, de mes personnages.
Et surtout d'un personnage clé et très intéressant, ouais, qui est donc un écrivain secret, qui habite là, qui on ne sait pas pourquoi, depuis 20 ans, il a décidé d'arrêter d'écrire, c'est Nathan Fowles.
Nathan Fowles, ouais, qui est une cristallisation justement de tous les écrivains dont on parlait précédemment. Et on a une jeune journaliste, Mathilde Monet, qui débarque sur l'île et qui est persuadée que cet écrivain cache un secret. Pourquoi est-ce que on arrête du jour au lendemain de faire ce qu'on aime le plus au monde quand on a la chance, comme nous, de vivre de notre passion, c'est-à-dire de consacrer l'essentiel de notre temps, finalement, à ce qui nous faisait rêver quand on avait 10 ans, 15 ans. Et donc, elle se dit, c'est pas normal que ce type ait arrêté d'écrire, et tout ça doit cacher un secret.
Et là, vous émettez une hypothèse amusante, c'est que tous ces écrivains, Philippe Roth, Elena Ferrante, ont peut-être quelque chose à cacher, quelque chose d'inavouable, quelque chose de sanglant qui n'aurait rien à voir avec la littérature.
C'est-à-dire que le problème de ça, c'est que quand vous commencez à écrire, c'est une activité qui est plutôt une activité pour introvertis, et finalement le succès peut vous amener justement à venir à France Inter ce matin, à donner des interviews, à vous mettre un peu en scène. Et c'est un petit peu un côté un peu schizophrénique de rester 10 mois enfermé dans une solitude monacale à vivre avec des personnages de papier, et après pendant 2 mois être sur les plateaux de radio, de télé. Donc vous avez pas de vie vraiment normal, vous passez de la solitude
ça m'avait
la plus
frappé
extrême
parce que...
à une exposition un petit peu hors norme.
J'avais lu que Stephen King, à la fin de chaque, il a une bouteille de champagne dans un frigidaire et il attend la dernière ligne écrite pour déboucher la bouteille et tout seul il trinque.
Il met en scène effectivement dans Misery, Paul Shelton, son personnage effectivement ouvre une
propre personnage. Marie-Agnès, vous avez quelque chose à cacher? C'est le moment de le dire.
Je pense
personne
pas.
N'écoute, allez-y.
Non, je pense pas.
Vous n'avez rien à cacher, vous êtes transparente.
Oui,
vous êtes pas si lisse que ça, on verra tout à l'heure, vous allez voir. Oh non. Guillaume,
oui.
Nathan Fowles, ce personnage, vous savez la question qu'on vous pose régulièrement, mais ça paraît logique. Ouais. Est-ce que c'est vous? Je vous pose la question parce que vous avez répondu aux questions de François Bunel en avril, dans son émission sur France 5, et dans vos réponses, vous donniez les réponses que j'ai retrouvées moi dans votre livre.
Ouais,
écoutez vos réponses.
Musso, quel est votre mot préféré?
Silence.
Le mot que vous détestez?
Voyeurisme.
Votre drogue favorite?
Le whisky japonais.
Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque?
Alexandre Dumas, qui a gagné beaucoup d'argent, qui en a beaucoup perdu, et que j'aime beaucoup.
Et ça, c'est pas vos réponses, c'est celles de Nathan Fowles.
Oui, mais peut-être que celles de Nathan Fowles sont les miennes.
Bon, alors, Madame Bovary, c'est vous ou pas?
Non, mais c'était... Philippe Roth disait, voilà, un roman, c'est un moyen pour le romancier de pouvoir... c'est un mensonge qui permet au romancier de pouvoir exprimer son indicible vérité. Et ce roman, c'est le thème profond du livre, c'est justement cette frontière entre la réalité, la fiction, et comment fiction et réalité dialoguent. La réalité influence la fiction, la fiction influence la réalité, la vie. Et Italo Calvino disait, je réponds toujours aux journalistes, mais ne me demandez pas de leur répondre la vérité. Donc on est sur cette frontière mouvante. Mais moi, je pense qu'on a tous quelque chose à cacher, mais on a tous une vie secrète, le fil rouge du livre, c'est aussi la phrase de Gabriel Garcia Marquez, chaque individu a une vie publique, une vie privée et une vie secrète, et finalement notre vie intérieure, les choses qu'on veut pas forcément partager avec les autres, c'est aussi une des conditions finalement de notre liberté. Qui a envie de vivre dans un monde où qui soit complètement transparent,
s'ouvrir à sa vie secrète. C'est ce que vous faites, Guillaume Musso, avec la vie secrète des écrivains. Alors vous, Marie-Agnès Gillot, moi je vais essayer de m'ouvrir à votre vie secrète, je ne sais pas si je vais réussir. En tout cas, j'ai choisi un disque en pensant à vous, Marie-Agnès Gillot. C'est un poème d'Arthur Ashe, qui est devenu une chanson, « La boxeuse amoureuse ».
Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. Et de sang, elle esquive les coups, la boxeuse amoureuse, elle absorbe. La boxeuse amoureuse. Boum boum la supercute, un percute son visage. Mais jamais elle ne cesse de danser, de danser. Tomber ce n'est rien, puisqu'elle se relève, un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres.
Durache dit avoir écrit cette chanson pour sa mère, Nicole Courtois. Je rappelle que son père était Jacques Higelin. C'était donc la boxeuse amoureuse d'Arthur Ashe.
France Inter, Estivalitude, Christophe Bourseiller.
Marie-Agnès Gillot, alors cette chanson, vous la connaissez parce que vous avez chorégraphié ce clip en 2018. Comment avez-vous rencontré Arthur Ashe ?
Très simplement par les réseaux sociaux, en fait. Il m'a contacté
sur Tinder.
Non, je crois qu'il m'a contacté sur Facebook. Je le regarde jamais, en fait, et ce jour-là, j'ai regardé.
Et vous n'avez pas dit, c'est peut-être un fou furieux qui se fait passer pour Arthur Ashe?
Non, à la façon d'écrire, non. Ouais, désolée, ouais. Au premier message, j'ai compris que c'était lui.
Il vous a expliqué pourquoi il a pensé à vous?
Ben, je pense qu'il m'avait vu danser dans Pina Bausch, dans des, dans Anne Teresa de Kirchmaker, des choses comme ça.
Des choses avant-garde.
Ouais, voilà, assez contemporaine, assez pointue. Ouais, il avait envie de, avec son ami, il avait vraiment des idées très précises sur le clip. Et en fait, j'ai juste suivi le squelette de ce qu'ils voyaient dans leur corps et leur esprit. Et moi, je l'ai mis en mouvement, c'est tout.
Oui, c'est très beau. C'est un très beau clip. On l'a regardé dans le bureau de l'émission hier et j'ai été vraiment très marqué. C'est un clip très fort, très puissant. La femme comme boxeuse amoureuse. Enfin, voilà. Il y a quelque chose là de. Hein. Vous êtes une boxeuse, vous ?
Bien sûr. On dit qu'une danseuse, elle est moitié nonne, moitié boxeuse.
Oui, alors ça, on va en parler tout à l'heure. Il paraît que vous allez créer sur scène la chorégraphie que vous aviez faite pour le clip d'Arthur H. C'est prévu pour le 20 avril 2020. Voilà ce que j'ai trouvé. C'est vrai ?
Exactement, à la scène musicale, oui. Ouais. Où on va rééditer cette expérience et cette rencontre. Mais on va aussi s'amplifier avec un grand sportif qui s'appelle Souleymane Sissoko, qui sera certainement avec nous aussi.
Ah ouais, ouais.
Donc ça sera un vrai boxeur.
Ah, il y aura un vrai boxeur. Oui, mais le clip, il dure 4 minutes. Alors comment vous allez faire ? Vous allez faire un spectacle de 4 minutes ?
Non, du tout, non. Non, non, on va chorégraphier un... Enfin, je vais chorégraphier un match de boxe. Voilà, je vais aussi disséquer le texte. Je peux pas vous dire, je l'ai pas encore créé, mais c'est marrant de me demander ce que je vais créer en avance. C'est toujours très drôle.
Un match de boxe. Alors écoutons justement le grand danseur et chorégraphe Maurice Béjart, interviewé par Jacques Chancel le 25 juin 1974.
Vous connaissez Maurice Béjart, cette phrase de Charlie Chaplin, un danseur est un être qui est mi-nonne, mi-boxeur.
C'est très extraordinaire. C'est une phrase que j'aime beaucoup parce que ça décrit vraiment de façon très subtile et très coup de poing, si j'ose dire, ce que c'est qu'un danseur. C'est un boxeur parce que c'est un combatif, parce que la danse est un sport, mais un sport de combat, parce qu'il y a une lutte, et il y a une âpreté dans la lutte. Et c'est une nonne parce que la danse est une prière, une contemplation, un moyen d'union avec la vie tout court, et parce que ce qui est commun à la nonne et au boxeur, c'est la discipline de vie.
Alors Marie-Agnès Gillot, vous êtes-vous aussi mi-nonne, mi-boxeur, mi-boxeuse ?
Bien sûr. Bien sûr.
Oui.
Bah, il le faut, sinon on n'arrive pas à ce niveau-là. Hein.
Ce qui est sûr, c'est que l'un et l'autre, ça je le disais au tout début de l'émission, Guillaume Musso et vous êtes des sportifs parce que vous avez une très stricte discipline de vie. Vous, Guillaume Musso, je sais que vous partez de chez vous tous les matins pour aller travailler,
oui, oui.
Comme si vous alliez au bureau, sauf que c'est votre propre bureau personnel.
Ouais, je peux jamais écrire chez moi parce que voilà, l'appartement c'est réservé à la vie de couple, aux enfants, et donc je m'astreins. À ça, j'attends pas que l'inspiration vienne pour commencer à travailler, mais je travaille en espérant effectivement. Enfin, c'est parce que je travaille que l'inspiration finit par venir. Et oui, la littérature, c'est aussi un sport de combat. Alors, le premier combat, c'est face à soi-même et face à la solitude. Et par rapport aux êtres de papier.
Pour lancer l'écriture, vous avez un objet fétiche lié au livre ou une musique?
Oui, il y a un côté un petit peu pavlovien parfois dans l'écriture qui consiste effectivement ça peut être écouter une musique, ça peut être suivre un rituel qui est associé au travail, qui est associé en fait à la répétition de l'effort. Et c'est cette répétition de l'effort, ouais, ça, je pense qu'on a ça en commun, un côté obstiné, un côté voilà qui fait que qu'on arrive à aller où on veut aller.
Il faut dire, dans le cas de Marie-Agnès Gillot, c'est l'incommensurable travail qu'on fait sur son corps tout au fil de sa vie. J'ai lu que vous aviez longtemps été obligée de porter un corset.
Oui, bien sûr. Oui.
De quand à quand ?
De l'âge de 10 ans à 17 ans. 11
Pourquoi ?
Ans. Bah parce que je suis handicapée, j'ai une double scoliose et que voilà, j'aurais dû être paralysée, avoir une barre de fer dans le dos et que j'ai refusé ce... Parce que moi, je voulais danser, donc j'ai eu la chance d'être écoutée. Et souvent, on n'écoute pas les enfants, mais à cet âge-là, on m'a permis de porter un corset, de faire la rééducation, plutôt qu'une opération qui m'aurait paralysée à vie.
Et donc, on apprivoise la douleur ? On vit avec ? On s'en sert ?
Bah, c'est un allié, c'est un ennemi, c'est une douleur, c'est pour moi quelque chose de passionnel quand même, parce que j'en ai toujours.
En permanence, vous avez en permanence des douleurs ?
J'ai en permanence des douleurs, et alors ?
Et alors, est-ce que c'est un moteur ?
C'est un moteur, bien sûr, et c'est aussi un baromètre en fait, je dirais.
Alors, votre personnage, Guillaume Musso, qui donc est l'écrivain Nathan Fowles, qui vous ressemble quand même un peu, il aime les mêmes choses que vous, le whisky japonais et beaucoup d'autres choses, dit qu'il s'ennuie quand il écrit. Est-ce que vous vous ennuyez quand vous écrivez?
Non, enfin, moi, je m'ennuie pas quand j'écris, mais je suis un peu comme Anaïs Nin qui disait je déteste écrire, j'adore avoir écrit. et c'est vrai que moi, ce qui me pèse, c'est le côté solitaire de l'écriture, mais c'est aussi, disons, depuis l'âge de 15 ans, je veux devenir romancier. Depuis l'âge de 15 ans, je me lève en me disant, voilà, quelle idée tu vas avoir aujourd'hui, et donc ça fait partie intégrante effectivement de ma vie. Ouais.
Vous savez que dans les années 60 du siècle dernier, la grande mode chez les écrivains, c'était d'aller écrire au bistrot. Donc oui, vous alliez à Saint-Germain-des-Prés, il y avait Jean-Paul Sartre d'un côté, un autre de l'autre, tout le monde en train d'écrire à une table de bistrot. Vous faites pas ça, vous?
Vous pouvez faire ça pour chercher des idées, pour observer le monde, mais pas le travail d'écriture dans le dur, quoi.
Alors, il y a un auteur, moi, qui me fait penser à vous, hein, je dois dire. C'est plutôt flatteur pour vous, d'ailleurs, Guillaume Musso. C'est Georges Simenon. Je sais que vous l'aimez beaucoup.
Ouais, j'aime beaucoup. Ouais.
Interviewé le 10 octobre 1955.
Dans quel sens s'est opéré l'effort d'écriture que vous avez réalisé depuis vos premiers romans?
Eh bien, dans la simplification toujours plus grande et aussi, si étrange que ça paraisse, dans la réduction du vocabulaire. En général, un écrivain essaye d'enrichir son vocabulaire, c'est même un conseil que l'on vous donne au collège, enrichissez votre vocabulaire, etc., pour avoir toujours le mot juste, mais c'est très bien d'employer le mot juste. Seulement, si 90% de vos lecteurs ne le comprennent pas exactement dans le sens où vous l'employez, à quoi ça sert-il? Il faut pas oublier que nous écrivons pour être lus.
C'est un peu un manifeste, ça.
Il y a une fluidité, effectivement, chez Simenon, qui est... Enfin, pour moi, la fluidité du style, c'est une politesse par rapport au lecteur. Donc, oui, je suis assez d'accord avec ça.
Les sentiments glacés sans suite.
Eh oui, on a décidé de programmer ce matin toute la famille Higelin. Non, je plaisante, c'était la fille de Jacques Higelin, Isia, une formidable chanteuse qui est aussi une remarquable actrice dans Trop vite, une programmation à la fois familiale et punk de Muriel Pérez.
Vous avez dit.
Ah non,
vous m'avez rien dit.
Bah, c'est vous qui me l'avez dit.
Ça m'a toujours, mais vraiment mis hors de moi, les gens qui disent « ça c'est un vrai écrivain, ça ouais. C'en est pas, ça c'est de la vraie littérature, mais attendez, qui êtes-vous les gars ?» Enfin, ça m'a toujours horripilé.
Et vous entendez, oui. Guillaume Musso, oui. Hein. Guillaume Musso, faut bien dire, oui. Franchement, chacun oui. de vos livres se vend à près de 2 millions d'exemplaires. Vous avez vendu dans le monde, là j'ai pris mes sources, oui. près de 30 millions de livres. Vous êtes traduit dans 40 langues et vous n'avez pas 50 ans. On le paie cher en France d'avoir du succès.
C'est honnêtement, tout ça n'est pas très très grave. Hein.
Je dis pas que c'était grave, non, mais non, ça m'intéresse. Mais quand même, ça vous horripile. Hein.
Non, alors ce qui m'horripile, moi j'ai été élevé par une mère bibliothécaire qui m'a toujours dit attention, ne sois pas snob, lis Flaubert et Proust, mais lis aussi Barjavel, Pagnol, Stephen King.
Et Simenon.
Va voir les films de Théo Angelopoulos, mais va voir aussi Les Bronzés. Et voilà, j'ai toujours une approche de la culture qui est une approche aussi à travers le plaisir et pas simplement à travers le fait de se dire oh là là, la culture, c'est certes oui, c'est une arme, c'est du savoir, mais voilà.
Mais dans votre livre, oui. La vie secrète des écrivains, vous posez la question. Finalement, il y a deux types d'écrivains, dit l'un de vos personnages. Il y a ceux qui privilégient le style et ceux qui privilégient l'histoire. Vous vous situez comment, vous?
Moi, c'est-à-dire ce roman, c'était aussi voilà une façon de poser un petit peu le débat. On a différents intervenants qui défendent. Qui défend une thèse. Alors c'est pas un livre à thèse, hein, c'est un roman suspense, mais qui se passe effectivement.
Mais il y a un personnage intéressant. Il y a un libraire aigri, un personnage un peu trouble. Enfin ça, on le découvre dans le livre, qui dit aujourd'hui tout le monde veut être écrivain et personne ne lit.
Oui, c'est un peu ce que disait. C'est le discours de ce libraire vient de. J'ai lu beaucoup d'interviews de Philippe Ross et Ross dit voilà finalement c'est là aujourd'hui c'est un petit peu la fin de la littérature. Intelligente, il reste peut-être 10 000 ou 5 000 lecteurs aux États-Unis et voilà, et on peut aussi avoir une autre vision qui est de dire que voilà, les gens ne lisent pas moins, ils lisent autrement voilà, et moi où je me situe dans ça, je pense que moi je suis pas j'ai jamais défendu une chapelle, j'ai jamais et c'est un peu vain de vouloir opposer l'histoire au style. Enfin, voilà.
Marie-Agnès Gillot, vous avez été audacieuse dans votre carrière parce que vous êtes devenue danseuse étoile de l'Opéra de Paris grâce à une œuvre contemporaine, Sing, de Caroline Carlson. Et c'était la première fois que ça arrivait. Et vous avez souvent pris le risque de vous lancer dans des aventures contemporaines.
Oui, enfin, c'est pas, on m'a nommée, donc je ne savais pas que j'allais être nommée sur une œuvre contemporaine.
Vous choisissez pas ce qu'on vous propose?
Non, on est choisi. On est interprète, on choisit pas.
Mais à part la suite, alors j'imagine que vous avez fait des choix, non? Vous dites, c'est quoi aujourd'hui au menu, et puis vous faites,
Non, c'est pas si simple que ça. On est choisi par des chorégraphes qui vous font passer des auditions, qui vous font travailler des heures avant d'être
choisi
pour un
rôle. Encore faut-il avoir envie de le faire, non?
Oui, mais c'est pas forcément mes choix. C'est ma vie. Ça s'est passé comme ça.
Et vos choix, ils sont où alors?
Mes choix, ils sont plutôt musicaux ou quand je crée. Ça, ce sont mes choix.
Oui, oui.
Mais pas quand je suis interprète.
Alors, par exemple, donnez-moi un exemple de choix à vous.
Bah, les rares différences. Enfin, une pièce pour les danseurs de hip-hop avec des des musiques classiques, de lier les genres, de lier les milieux, de
changer. Vous aimez le rap?
Oui, j'aime le rap, oui.
Oui. Vous écoutez qui comme rappeur?
Joystar, pas beaucoup quand même.
Oui. Vous avez fait vos adieux à 42 ans, donc en tant que danseuse étoile, avec Eurydice, Orphée et Eurydice de Pina Bausch. 42 ans, c'est un peu jeune pour prendre sa retraite, non?
C'est la loi.
C'est la loi. On est danseuse étoile jusqu'à 42 ans.
Exactement.
Donc on vous dit comment? Ex-étoile ou reste étoile à vie comme on est président de la République à vie?
Oui, c'est un titre à vie.
Ah bon, bah très bien. Ça me rassure alors. Alors, Guillaume Musso, vous avez une question pour Marie-Agnès Gillot.
Oui.
Laquelle est-elle?
Moi, j'aurais aimé savoir dans quelle mesure le public... le regard du public influe sur votre façon de danser.
En fait, je ne vois pas le public parce que j'ai un espace noir devant moi.
Ouais, je me demandais.
Donc,
ouais.
Je ne vois pas le public. Je vois peut-être le premier rang par certains spectacles.
Les acteurs
parce que
le ressentent.
La lumière réverbère. Ouais. Pardon ?
Les acteurs ressentent le public même s'ils ne le voient pas. Est-ce que c'est
oui.
votre cas ?
Non, moi, je ressens le silence, en fait. Quand il y a un certain silence, ça veut dire que le public est concentré, est avec moi. Et j'entends surtout les applaudissements à la fin. Mais souvent, j'ai les oreilles bouchées parce que, en fait, les prouesses techniques me bouchent les oreilles. Je savais pas. Quand on fait des fouettés, par exemple, quand je finis 32 fouettés, j'ai les oreilles bouchées.
Ouais, ouais.
Donc du coup, j'entends pas très bien le succès.
Et vous entendez la musique quand même ?
Heureusement, oui, merci.
Et vous, Marie-Agnès, quelles questions voulez-vous poser à Guillaume Musso ?
J'aurais aimé savoir si vous aimeriez créer un roman sur la vie d'une danseuse.
Alors c'est vrai qu'il y a un très beau livre de Colm McCann, danseur, sur la vie de
Nourieff.
Nourieff, ouais, que j'avais vraiment adoré lire. Ensuite, c'est vrai que de façon plus générale, la danse dans l'art, les premiers flashs qui me viennent, c'est Horace McCoy, On achève bien les chevaux, Black Swan, Darren Aronofsky, des choses quand même liées, oui, à la douleur, à un côté assez tragique. Après, il y a beaucoup de choses qui me parlent dans la danse, c'est effectivement ce qu'on s'est dit, le rapport entre le travail sur le corps pour faire naître une émotion, l'obstination et les années de travail pour aboutir à une œuvre d'art. Ça me parle parce que ça me fascine dans beaucoup d'autres arts. Et donc, alors, peut-être pas raconter la vie d'une danseuse, mais faire d'une danseuse le personnage d'un de mes romans, ce qui n'est d'ailleurs peut-être pas à lui souhaiter, parce que souvent mes personnages ont un devenir assez tragique.
Oui, vos personnages ont un destin tragique, mais en même temps, ils sont très attachants. Ah ben et je pense qu'un personnage comme Marie-Agnès Gillot pourrait peut-être nourrir, vous voyez, son côté punk. Hein, je pense qu'il faudrait aller la chercher du côté punk, du côté du corset.
Je garde l'idée.
Hein, je pense. Hein. Alors, on pourrait parler d'historique R&B, là je vous fais une sorte de... ou de néo-soul, les Black Pumas. C'est un duo texan, avec d'un côté le producteur et guitariste Adrian Quesada, de l'autre un chanteur à la voix étonnante, Eric Burton, qu'il ne faut pas confondre, bien sûr Guillaume, avec le lointain fondateur des Animals, Eric Burdon. Black Pumas, Colors.
I woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then the walk I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, town, town. With all my favorite colors, yes sir. All my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see them black no more. All my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors.
Oh,
Estivalitude, Christophe Bourseiller sur France Inter.
Marie-Agnès Gillot, vous avez la chance de vous produire dans quelques jours, c'est ça votre actualité. On aura la chance de venir vous voir et de vous applaudir. Votre spectacle s'appelle, alors il a un titre qui dit pas grand-chose finalement, il dit Marie-Agnès Gillot en majesté. C'est vous qui avez choisi le titre ?
Non, du tout.
Qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce spectacle ?
Bon, en fait, une collaboration avec Michael Rudy, qui est un grand virtuose pianiste.
Oui.
Et donc, on va faire un petit peu des collaborations un peu contemporaines sur des musiques qu'on a choisies ensemble.
Quoi, par exemple ?
La Pava, on va faire du Ravel, on va faire du Chopin, on va finir avec du Ligeti.
Ligeti.
Ouais.
Vous allez danser sur du Ligeti.
Ouais.
Moi, je vous aime quand vous dansez sur du contemporain.
Ah bah, tant mieux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Est-ce qu'il y a, tout à l'heure, pendant le disque, nous évoquions fugitivement un film merveilleux avec Nathalie Portman, qui s'appelait Black Swan, qui était un film d'horreur dans lequel le milieu de la danse était dépeint de façon très très dure. Il y a des injustices dans les milieux de la danse. Vous en avez souffert, Marie-Agnès?
Bien sûr qu'il y a des injustices, mais il y en a partout dans la vie. Je pense que c'est pas que le milieu de la danse. Mais ce sont des injustices qui sont plus pesantes parce que nous, on a le rythme du temps. C'est-à-dire qu'un corps, il se décompose, c'est-à-dire, donc il faut être en temps et en heure à la bonne place.
Vous avez dit, j'ai tout donné sans jamais me plaindre à l'opéra, qui malheureusement ne me le rend pas très bien.
Oui, j'ai trouvé un moment qu'on me le rendait pas très bien, mais voilà, que dire, c'est fini.
Je vous cite encore.
C'est ma retraite. Je suis en retraite.
Bah oui, mais justement,
je ne suis plus à ce niveau-là.
Quand on est à la retraite, on est libre de parler. Vous avez demandé aux anciens agents de renseignement, ils s'expriment librement. Alors vous avez dit, il règne une grande rivalité et certains usent de stratégies qui me rendent perplexe.
Oui, effectivement, il y a des gens qui ont du culot et qui n'ont pas le talent, mais qui ont du culot et ça marche aussi. Et ça m'a toujours un peu déçu, en fait.
Alors, Marie-Agnès, le son qui vous résume, c'est le discours que vous aviez prononcé à l'opéra à l'issue de votre dernier spectacle et que vous reprenez ici, j'explique ce que c'est quand même, sur France Inter dans l'émission Boomerang d'Augustin Trapenard.
Pardon aux photographes qui ont dû retoucher mes pieds, mes cernes et mes bosses. I'm the boss with boss. Des bosses au-dessus des pieds, derrière le dos, mes épaules et mon visage, elles sont ma beauté, mon carrosse, mon sacerdoce. Je suis la fée. La fée pas...
Marie-Agnès, c'est vous qui avez choisi ce son. Je vous ai demandé quel son vous résume et vous m'avez dit, je voudrais entendre. Alors, on n'a pas le temps, malheureusement, de passer l'intégralité de votre discours, mais en tout cas, cet extrait que j'ai choisi, moi, justement à propos des bosses, à propos de cette souffrance qui caractérise la danse.
Oui, mais ce n'est pas que ça, la danse, en fait. Je voudrais rectifier que la souffrance, elle est quand même très embellie par le plaisir et que je ne souffre pas quand je suis en scène, puisque, en fait, la scène m'enlève toute douleur. Donc, j'ai des douleurs dans la vie, mais quand je suis en scène, c'est que du plaisir. Faudrait pas l'oublier.
Absolument. Alors, Guillaume Musso, vous, le son qui vous résume, alors, on va l'écouter tout de suite.
Oui.
Je crois qu'on va comprendre assez facilement ce que c'est. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Je ne comprends pas.
Oui, non, c'est effectivement le bruit des touches d'un clavier, c'est une machine ici.
D'une machine à écrire,
bien sûr.
C'est pas un clavier d'ordinateur, c'est une bonne vieille machine Olivetti.
Mais il y a le fait qu'en fait ce bruit, c'est quand un peu le bruit des vagues, en fait. C'est l'idée que l'écriture ne s'arrête jamais. Dans le roman, je cite une phrase qu'on attribue à Ionesco qui dit « Un écrivain n'est jamais en vacances. Soit il écrit, soit il réfléchit à ce qu'il va pouvoir écrire. » Et en fait, je pense que voilà, depuis 25 ans, depuis que j'écris, c'est tellement devenu une seconde nature qu'il n'y a pas de bouton off, en fait. Il n'y a pas de... Je suis tout le temps... aux aguets d'une idée, d'un dialogue, pour nourrir finalement mes romans. Et je pense que même si un jour j'arrête de publier, j'arrêterai jamais d'écrire parce que c'est devenu... Alors, j'aime pas le terme addiction parce qu'on a l'impression que c'est... Mais c'est devenu, je préfère celui de seconde nature.
Vous écrivez sur une machine à écrire ou vous êtes comme tout le monde sur un
ordinateur? Non, moi j'écris la face préparatoire, c'est classique, carnet. Je passe très longtemps à faire en fait le squelette en fait de mon livre. L'écrivain américain Dennis Lehane, l'écrivain de Polar qui a écrit Mystic River notamment, disait voilà dans les romans à suspense, il faut qu'il y ait une tuyauterie solide, mais nous ne sommes pas des plombiers. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le squelette, il faut rajouter la chair, et ça, la chair, c'est l'écriture proprement dite, et c'est le moment le plus excitant de l'écriture, c'est le moment où les personnages se mettent à avoir envie de faire des choses auxquelles vous les prédestiniez pas forcément. Et ça, c'est vous êtes sur la bonne voie parce que vos personnages cessent d'être des stéréotypes et des êtres de papier pour finalement prendre vie dans votre esprit.
Marie-Agnès, vous aimez à dire « je suis mon plus grand adversaire ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Bah, je crois que Guillaume l'a dit précédemment aussi. Oui, c'est le plus grand combat, je le fais avec moi-même. Je suis mon plus grand ennemi. Personne ne pourra s'anéantir autant que moi.
Si c'était à refaire, Marie-Agnès, vous referiez danseuse ?
Ah, bien sûr.
Oui.
Bien sûr.
Vous n'avez pas de regrets ? Il n'y a pas un autre métier qui vous aurait séduite ?
Je pense écrivaine.
Écrivaine ? Vous auriez aimé écrire ?
Oui, je commence, j'écris plutôt.
Et vous, Guillaume ?
Moi, j'ai eu un métier qui était, j'étais professeur de lycée pendant 10 ans, et c'était de belles années. J'ai aimé faire ça, j'ai aimé les rencontres, j'ai aimé. C'est-à-dire que quand vous écrivez, certes, ça a du sens. Parce que effectivement, les lecteurs vous font un retour et que la littérature est un jeu qui se joue à deux. Mais quand vous êtes prof, voilà, vous levez tous les matins et le sens, vous l'avez directement, vous l'avez en live avec les interactions avec les élèves. Et je me dis voilà, dans les 10 ans que j'ai passé en étant enseignant, il y a peut-être une quinzaine d'élèves où je me dis bah oui, j'ai influé de façon positive sur leur vie et ça n'a pas de prix.
Alors, avec Guillaume Musso, on pourrait dire les jeux sont faits, vous êtes connu, vous avez publié de nombreux livres, vous vous attendez aux critiques que vous allez avoir d'une certaine façon. Et justement, Romain Gary avait eu le même problème et il avait inventé Émile Ajar. Vous n'aimeriez pas, vous aussi, inventer un écrivain factice qui publierait des livres et qui écrirait d'une manière très différente de vous ?
Mais ça serait très vaniteux. Et puis, comme vous dites... Romain Gary a tué le jeu, quoi. Voilà, en ayant le Goncourt deux fois, avec des romans magnifiques. Et j'ai pas ce problème-là. Je veux dire, si vraiment j'ai été frustré, c'est-à-dire par rapport à, je sais pas, une certaine presse, encore que maintenant c'est moins le cas. Ce roman est bien accueilli, mais non, je crois que j'ai pas cet ego-là parce que depuis très jeune, j'ai appris à ne pas vivre ma vie à travers le regard des autres. Et je pense que c'est peut-être pareil pour vous.
Oui, c'est exactement pareil.
Et c'est une force, qui n'a pas de prix. Et c'est ce que j'essaye d'inculquer à mes enfants. Donc, ça serait, je trouve ça serait remettre de l'ego alors que j'ai passé ma vie effectivement à vouloir me détacher de ça.
Beaucoup de modestie. Et chez vous aussi, Marie-Agnès Gillot, vous vous mettez pas tellement en avant, je trouve.
Je le suis quand je le dois, c'est tout.
Ouais, voilà. C'est ça, vous savez le faire au bon moment. Il y a une phrase de vous que j'aime beaucoup quand même, je tiens à le dire. Je ne suis pas très claque, je suis plutôt coup de pied. Chez moi, ça part très vite.
Oui.
C'est quand même assez bien comme phrase, ça. Je l'aime beaucoup, moi.
Tu veux que je te raconte un souvenir ?
Un souvenir, ah oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
Alors là, évidemment, c'est le moment important, c'est la question brutale, hein. C'est votre plus incroyable souvenir de vacances. Je vous rappelle que l'émission s'appelle Estivalitude et que nous sommes en pleine torpeur estivale, en tout cas ça démarre bien sûr. Alors Guillaume Musso, oui. Vous, votre souvenir de vacances, c'est un souvenir assez mouvementé.
Ouais, c'était en 2010, dans le sud de San Francisco, je vais louer une voiture avec ma compagne, on avait loué une espèce de cabane qui était... assez haut dans les montagnes. Et pour y accéder, il fallait avoir un 4x4 très 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 puissant.
Vous montiez à 3000
? Alors pas à 3000, mais c'était sur des chemins vraiment pentus. Et visiblement, on n'avait pas la voiture qu'il fallait pour aller là. Et on a loupé l'embranchement. On a eu un accident. Et à un moment, j'ai vu la voiture que je n'arrivais pas à freiner en train de descendre. Et je pensais qu'elle allait s'écraser. J'étais à l'intérieur. Bon, finalement, ça
s'est
bien.
Vous pensiez que vous allez basculer dans le vide,
vraiment,
dans votre livre, La vie secrète des écrivains.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est ces moments où, d'un seul coup, vous avez un flash qui vous rappelle que la vie est fragile, que la vie peut s'arrêter. Et je me souviens très bien, c'est à ce moment précis où je me suis dit, il faut avoir un enfant, quoi. Faut arrête de parler, de dire oui, on va le faire, Et il y avait cette Donc je me souviendrai toujours de ce moment. C'était voilà, c'était l'évidence qu'à ce moment-là dans ma vie, il manquait. Ah bah, un
quel beau souvenir de. Enfin, c'est incroyable. Ouais, c'est comment... Vous avez failli mourir et vous avez décidé de faire un enfant. Voilà. C'est pas mal. C'est Marie-Agnès Gillot. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que votre souvenir de vacances que je vous ai demandé se passe lui aussi en Amérique.
Oui. C'était une tournée à Chicago et en fait je dansais le boléro de Béjart, donc il y a parlé plus tôt dans l'émission, c'est drôle.
Ravel par Béjart.
Voilà, et c'était, voilà, moi c'était un flash de grâce en fait. Souvent je me souviens pas des spectacles parce que ce sont des répétitions pour moi. Et il y a certains spectacles où en fait je retiens tout, où j'ai tout en corps, tout en esprit et j'étais avec mon ange gardien, on était, voilà, et... C'est des moments de grâce et les moments de grâce c'est rare.
Ça a eu lieu où? Vous avez joué où?
À Chicago. Enfin, je faisais Chicago, New York. On faisait une tournée à travers l'Amérique sur la côte est. Et voilà. Et donc j'enchaînais des sublimes pièces. Mais je me souviens de ce boléro en fait. Je dansais Pina Bausch, je dansais Rudis.
Ce boléro à Chicago. C'est voilà. Pas le boléro en général. C'est non, le boléro c'est de
le boléro
Chicago.
À Chicago.
Vous pouvez comprendre pourquoi il y a eu cette grâce. Vous avez trouvé une raison?
Non, on ne peut pas l'expliquer. La grâce, ça arrive par instant et par instinct. Et on la reconnaît quand elle est sur nous.
Écoutez, quelle belle phrase de fin.
Oui.
Merci beaucoup, Marie-Agnès Gillot et Guillaume Musso.
Merci.
Vous avez tous deux fait preuve de beaucoup d'estivalitude. Guillaume Musso, votre roman La vie secrète des écrivains est donc sorti chez Calman Lévy. Marie-Agnès Gillot, le spectacle Marie-Agnès Gillot en majesté, se donne samedi 6 juillet, ce samedi, à Giverny, dans le cadre de la première édition du festival Impression. Vous pouvez bien entendu réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. La réalisation est signée Juliette Médevielle, la préparation Saad Merzak, Claire Tesser, Pierre Goulencourt et Astrid Landon. Et à la technique aujourd'hui, Paul Percheron. Notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain à 9h sur France Inter.